Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h06, vous écoutez RMC et vous avez raison, ce 14 juillet, vous écoutez les grandes gueules du sport avec Marie-Martineau, Fred Weiss, Pascal Dupraz, Simon Dutin ce matin. Des grandes gueules du sport à retrouver également tous les jours en podcast et on remercie ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux en podcast. Le podcast disponible juste après l'émission. Dans 30 minutes, la punchline des GG signée cette semaine. Kevin Mayer blessé à moins de 2 semaines des Jeux. Est-ce que son absence serait une catastrophe pour l'athlétisme français? Et puis dans 1 heure, le Tour de France au menu des grandes gueules du sport. Pogacar a fait un grand numéro hier dans les Pyrénées. Est-ce qu'il a assommé le Tour? On en parle à 11h avec les GG et avec vous au 32-16.
RMC, le bras de fer GG.
Première balle est dedans. Le retour est moyen. Ça peut faire mal. Il monte. C'est fini! Attaque gagnante. Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon face à Djokovic. Incroyable, insensé, sur le score de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Le maître a trouvé son maître, ici à Wimbledon.
C'était l'année dernière, la finale entre Carlos Alcaraz et Djokovic, remportée par Alcaraz. Remake cette année à 15h, heure française, à Wimbledon, entre les deux hommes. Et la possibilité pour le Serbe de remporter son 25e titre du Grand Chelem, le 8e à Wimbledon. Et pourtant, le Joker s'est encore fait des ennemis pendant le tournoi anglais, certains fans n'hésitant pas à le siffler régulièrement. Et donc, malgré son immense palmarès, Djokovic divise toujours. D'où cette question qu'on a posée aux grandes gueules du sport. Les fans de tennis manquent-ils de respect à Novak Djokovic? Dans le coin droit, ils pensent que les fans manquent de respect. Marie-Martineau, Pascal Dupraz. Dans le coin gauche, ils pensent que les fans ne manquent pas de respect à Novak Djokovic. Simon Dutin, Fred Weiss. Avant d'en débattre, on va faire appel à...
Qu'est-ce qui se passe, Simon, aujourd'hui?
On va faire appel à un arbitre. Eric Salio est là. Salut, Eric.
Good morning, the grand girl.
Good morning.
Salut.
Eric, cette semaine, effectivement, Novak Djokovic s'est fait de nouveaux amis, on a l'impression, à Wimbledon. Hein.
Oui, c'est vrai que lundi, lors de son 8e de finale face à Holger Rune, on a assisté à des scènes assez étranges, à savoir des encouragements inhabituels et prolongés d'un groupe de supporters danois. Je vais essayer de vous le faire. Roule ! Moi, de ma cabine, dans un premier temps, j'ai assimilé ça aussi à des sifflets avant de comprendre que c'était une nouvelle mode. Mais Novak Djokovic, lui, il a interprété cela comme un manque de respect. Et il l'a fait savoir lors de son interview d'après-match sur le Center Court.
Et à tous les spectateurs qui ont choisi de me manquer de respect, dans ce cas, j'ai un truc à dire.
Have a good night. Good night. Good night.
Je ne l'accepte pas. Non, 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 non. Je sais qu'ils encourageaient Rune, mais c'est une excuse aussi pour me lier.
Nouvel épisode un peu tendu vendredi après son succès face à Musetti. Comme il en a pris l'habitude, Djokovic se dirige au milieu du court et mime un violoniste avec sa raquette. Il le fait merveilleusement bien d'ailleurs. Un clin d'œil pour sa fille Tara, qui prend des cours de violon depuis 6 mois. Mais évidemment, dans le public, on n'avait pas lu la presse. Et le public a pris ça pour de la provocation et l'a sifflé. Alors le Serbe a entamé un nouveau morceau, un poil chambord. De toute façon, depuis la finale de 2019 face à Federer, il sait qu'il sera toujours le vilain ici à Wimbledon.
Eh oui, Eric, et on va évidemment, et bravo pour l'imitation, on va évidemment en parler avec toi et tu restes avec nous pour arbitrer ce bras de fer des grandes gueules du sport pour l'instant sur le compte X des grandes gueules du sport. Eh bien, la team oui, les fans manquent de respect à Djokovic est en tête avec 69%. La team non, c'est 31%. La team non, les fans ne manquent pas de respect à Djoko. Simon Dutin, Fred Weiss. Simon, tu veux commencer?
Ben, volontiers, mon cher Fred. On va le pauvre chaton.
Petit chaton.
Non, mais Eric l'a bien résumé. C'est vrai qu'entre Rune et Bou, il y a matière à. Mais bon, il ne va pas nous la faire. Djokovic, il fait très, évidemment la différence. Il s'est toujours nourri de ça, de cette petite provocation avec le public, parce que c'est le survivant du Big Three. Il y avait Federer, Nadal, qui étaient évidemment les idoles du public, connus et reconnus pour leur fair play, leur élégance. concurrence et lui, il a fallu qu'il trouve un petit peu sa place là-dedans pour exister. Donc, il a joué la carte un petit peu. Alors, pas de la provocation, pas toujours, mais bon, là, il y a cette histoire. Il sait très bien qu'en fait, c'était pour encourager Runeux. Le violon, donc, oui. C'est pour sa fille. Bon, il peut faire le geste vers sa fille, mais il s'est tourné vers les quatre coins du center court. Il a vraiment appuyé sa démonstration. Donc, là encore, avec un petit sourire, en accentuant, tu sais, la petite révérence, tu sais, vers le public. Donc, il en a fait des caisses. Je pense que ça le fait marrer. On n'oublie pas que toute sa carrière a été émaillée par des relations un peu, provoque avec le public. Il y a les fameux,
c'est ce qui est bien, c'est
les
ce
fameux
qui est bon.
Toilet breaks, là, tu sais, quand il est mené 2-7-0, et puis que finalement, il s'invente un petit mal de hanche ou une petite envie d'aller aux toilettes et il revient.
C'est
super Djoko. Il adore ça.
Il adore ça. Il se nourrit de ça, je suis d'accord avec toi.
Et voilà, donc c'est de la provoque.
Comme à Roland, il a fait semblant d'avoir mal au genou à Roland Garros, là, en huitième de finale.
Bah écoute, moi je pense qu'il s'en moque bien. Et
oui,
que ça
il s'est fait opérer juste pour plaisanter, pour se moquer du public.
Ou que c'est pas un manque de respect de envers Djokovic. Moi, à mon avis,
je vais pas aller en finale, lui me donne et il me donne.
On lui manque de respect. On lui manque de respect. Je pense que, pour ma part, il a un tout petit déficit de reconnaissance eu égard à ce qu'il accomplit. T'as bien fait de rappeler les deux, comment dire, fantastiques qui, malheureusement, pour l'un, a terminé sa carrière et pour l'autre, nous l'espérons tous. Nous l'espérons tous, mais ça sent un tout petit peu le pâté. Mais bon, moi, pour moi, Djoko, c'est l'incarnation du sport par excellence de haut niveau. C'est-à-dire, c'est, le mix entre le talent et le travail. Et ça, il l'incarne formidablement bien parce qu'il est capable de se réinventer. Il est minutieux sur tout ce qu'il entreprend. Alors moi, j'ai presque envie de dire, il a un déficit d'image. D'une part, parce qu'il est serbe, ok, et parce qu'il défend son pays, la Serbie. Donc ça, ça plaît pas. Après, il a décidé courageusement de pas se faire vacciner. Donc ça aussi, si t'es mieux, c'est pas très politiquement correct. Alors pour toutes ces raisons-là, ces prises de position, le fait, comme tu l'as dit fort justement, eh bien qu'il joue un peu avec les spectateurs, à ses débuts de carrière, il cassait beaucoup de raquettes, il était râleur, il s'engueule même avec son staff, il en change souvent, mais il se trouve que, moi, si t'es mieux, ce que j'espère, je veux pas de mal à Alcaraz, mais si t'es mieux, j'ai pas envie d'être prisonnier du jeunisme et d'Alcaraz, qui va bientôt être le numéro 1 mondial et qui va truster tous les grands tournois. J'espère que, Nolé, et j'ai envie de lui dire, come on, Nolé, gagne-moi ce match. Je vais être avec une pancarte. Je vais écrire Nolé devant ma télé et j'espère qu'il va gagner enfin ce 8e titre pour qu'il revienne l'année prochaine essayer de battre Federer et son 9e titre. Mais l'excellence du sport.
Mais tu n'acceptes pas qu'on le siffle alors. C'est ce que tu es en train de dire.
C'est démesuré.
C'est
de le
jeu. Je pense que c'est un jeu entre le public et lui. Lui, comme
ils s'en nourrit.
Il a grandi grâce à ça. Et effectivement, quand il est arrivé, il avait besoin de trouver sa place. C'est difficile à côté de Federer, à côté de Nadal, de trouver sa place. Et ben dans le jeu du bon, la brute et le truand, ben le bon c'était Federer, la brute c'était Nadal, et ben le truand c'était Djokovic tout simplement.
Pas mal.
Donc il a gagné 24 titres en truandant.
En étant méchant, parce qu'il avait besoin de prendre un rôle. Tu sais très bien qu'on est dans un monde
d'accord avec toi, mais je le sais.
On a besoin de ça, et je pense que parfois il le montre aussi, qu'il peut être très sympathique, mais aussi qu'il peut volontairement agacer tout le monde parce que ça le transcende, parce qu'il a besoin de ça, parce que peut-être que sa carrière n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu ça.
Il se nourrit du conflit, certainement.
Ce qui fait, je vais donner la parole, Marie, mais ce qui fait que pour certains, c'est pas le plus grand, malgré ses titres.
Mais ça, de toute façon,
parce qu'il y a un moment donné, quand t'es si fort, il faut bien que les gens trouvent un petit truc, un os à ronger, tu vois. Et évidemment, alors lui, là, on a trouvé cet os-là. Moi, les garçons, quand je vais en tant que spectateur, spectatrice, voir un match ou peu importe l'événement sportif, autant j'apprécie vraiment l'engouement quand il y a des gens qui encouragent avec véhémence, qui sont très encourageants. Ça me gêne pas du tout. Je trouve ça plutôt chouette et j'ai pas trop de limites. Alors, d'autant plus au tennis. tennis où il y a quand même une étiquette qui est des fois un peu pesante, et notamment à Wimbledon. En revanche, le dénigrement, si vous l'avez déjà vu ou subi ou observé en vrai, c'est moi oui, ça oui. me met toujours très mal à l'aise. Ah ouais, moi ça me gêne, même si je peux pas blairer la personne en question avec mon choix de tête, tu vois.
C'est au contraire, c'est-à-dire quand on se déplace, on sait qu'on va être hué, qu'on va être sifflé, qu'on va être, et c'est ce qui nous motive encore plus.
Ouais,
ça te galvanise forcément.
Mais tout le monde n'est pas capable de le. Alors d'autant plus quand t'es tout seul sur le field of play, c'est pas forcément évident d'être une éponge et de le prendre comme ça. En tout cas, d'avoir toujours les bonnes réactions qu'il faut avoir pour rester fair play, pour rester propre, pour rester le mec incroyable que l'on attend que tu sois. Et en ça, je trouve que Djoko il est quand même souvent cloué au pilori pour des réactions qu'il aurait eu, des mots qu'il aurait eu, des choses qu'il aurait fait.
Et il se débrouille pour faire siffler quand même.
Enfin, il a créé ce rôle-là, c'est quand même lui qui a mis un terme, on le disait, à la domination de Federer et Nadal, et qui a en quelque sorte réglé le débat entre les deux. C'est Nadal ou Federer le meilleur? Bah non, les gars, c'est moi. C'est moi. Et il a quelque part créé ça. Et
il y a
eu plein d'épisodes, tu sais, à une époque. Alors je parle sous le contrôle d'Eric. On lui avait demandé si la tradition, les matchs en 5-7 gagnants en Grand Chelem, il avait dit ouais, je suis pas sûr que le public ait une capacité d'attention qui dépasse les je sais pas combien. Il avait dit donc en gros il faudrait jouer au meilleur des 3-7. Bon bah si t'aimes le tennis depuis 30 ans, tu dis t'es mignon coco, mais bon, tu vas me laisser en décider, me prends pas pour un demeuré. Il y a eu plein de choses comme ça, le cluster, la Dria Tour ou je sais pas quoi, tu sais, le tournoi qu'il avait organisé chez lui. Et oui, je pense qu'il s'est dit bon ben voilà, tout le monde me prend pour le méchant si c'est si c'est comme ça. Très bien, mais
parfois la vie t'attribue un rôle aussi. Hein.
Qu'on nous fasse croire qu'on lui manque de respect et tout, ils connaissent le tennis à.
Non, mais là, justement, tu parles de Wimbledon et je sais pas, je voudrais avoir l'avis d'Eric qui est là-bas, qui est sur place pour RMC. Normalement, le public de Wimbledon n'est pas connu pour être un public agité. Donc c'est quand même le pousser à bout, peut-être, ce que fait Novak Djokovic, je ne sais pas, mais.
C'est en train d'évoluer, ouais, parce que je vais vous donner une petite anecdote rigolote, c'est que donc après sa victoire vendredi en demi, il était content tout, et puis dimanche ça va être un grand jour pour l'Espagne. Et là, le public a sifflé parce qu'ils ont cru qu'il voulait dire que ça va être un grand jour pour l'Espagne parce que je vais gagner Wimbledon et l'équipe nationale va battre l'Angleterre. Tu vois, il a pris une bordée de sifflets. Donc, je suis curieux de savoir comment le public va réagir cet après-midi pour le final parce qu'il a pas marqué. Il a pas été
erreur de com.
Une fois, il aurait dû se taire. Oui, petite erreur de com là.
Il y a un peu de chance. C'est bien. Il y a un peu d'interaction avec le public. C'est génial. Nous, on adore ça. Et encore une fois, Djoko, il s'en fout de ça. Lui, c'est son rôle. Il sait qu'on lui a attribué ce rôle.
Il va jouer avec. Il a peut-être pas envie d'avoir cette étiquette sur le front collée tout ça. Vous dites qu'il se nourrit des sifflets, il se nourrit de la haine des gens et tout. Moi, j'étais au 8e à Roland Garros. Il n'était pas sifflé, il était porté en triomphe par tout le Châtrier. C'était un truc de fou, une ambiance électrique. Eric, c'était dingue. Et ben, ça l'a vachement bien nourri aussi. Hein. Il a quand même fini ses 5-7 avec un genou en moins. Enfin, ça peut être tout aussi excitant d'être porté que d'être dénigré.
Ben justement, l'excitation l'intéresse. Donc, si soit t'es porté au nu, soit t'es sifflé, et dans ce cas-là, il y a une excitation. Et je pense que c'est ça qui le nourrit, justement.
Mais t'imagines, d'un mois sur l'autre, tu passes t'es encensé comme ça, tu te fais siffler parce que t'as fait un truc de
violon. Me against the world, ça c'est génial.
Ah bon? Oui, enfin bon, il aimerait peut-être être plus aimé aussi, on ne sait pas.
Mais peut-être, sauf que c'est le rôle qu'il a attribué, et maintenant, il joue très bien avec ce rôle-là, donc je vois pas où est le problème, vraiment.
Eric, justement, sur le comportement de Novak, et bon, tu nous l'as rappelé, effectivement, c'était une semaine très particulière pour lui. Est-ce que dans Wimbledon et à Wimbledon en général, précédemment, c'était déjà le cas? Parce qu'on peut-être qu'aujourd'hui, il va battre le record de Federer, quand même, quel chouchou, je crois, de Wimbledon.
Bien sûr, c'est un match qui a un enjeu énorme parce que il a été dithyrambique envers Alcaraz en disant que c'était le meilleur joueur, le meilleur jeune qu'on ait jamais connu, qu'il a un charisme extraordinaire, mais au fond de lui, il a que l'envie, c'est de prendre sa revanche parce que on le connaît, il n'a pas digéré le scénario de l'an passé. C'est une finale qui lui a glissé entre les mains et il se trouve qu'hier, je discutais avec le mari de Marion Bartoli dans Players Lounge, il me racontait qu'il avait volontairement oublié sa coupe l'année dernière. Et c'est sa femme qui a récupéré la coupe, sinon il l'aurait laissée au club, tellement il était vénère. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, on va quand même vérifier, mais non, il l'a eu très mauvaise l'an passé, parce que c'est un match qu'il n'aurait jamais dû perdre. Il a eu des balles de 2-7-0, et c'est pour la première fois, on a vu une petite faille dans le système Djokovic, parce qu'en face, c'est une sorte de génie, c'est un génie du tennis. Mais est-ce que le génie va pouvoir reproduire ce qu'il a fait l'an passé? C'est la vraie question, et c'est pour ça que cette finale s'annonce extraordinaire.
Ouais. Oui, il a dit l'histoire est en jeu, voilà, parce qu'il peut égaler effectivement le nombre de titres de Federer à Wimbledon. Il est à 7 pour l'instant, et s'il gagne, ça fera 8 titres à Wimbledon. C'est quand même le chouchou.
Enfin, surtout 25 ans, le contexte de l'opération au genou du 5 juin. C'est
ouais,
ça
c'est dingue.
Tout le monde pensait qu'il ne reviendrait pas à Wimbledon et il est en finale, quoi.
Bien sûr. Je crois que je l'avais dit dans Les Grandes Gueules ou dans le Moscato. Je dis, voilà, son été est foutu. Finalement, il va peut-être s'envoyer Wimbledon et les Jeux.
Ouais, donc
arrête de pronostiquer, s'il te plaît, alors.
Non, mais après, c'est vrai que sur le débat avec les trois plus grands joueurs de tennis, effectivement, si on s'arrête comme toi, Fred, aux statistiques, c'est Novak Djokovic. Hein, y a pas débat.
Mais non, mais il y a de l'affect aussi. En fait, c'est impossible. Et tu vois, nous, on nous pose la question énormément parce que le débat du GOAT, il vient principalement du basket au départ. Et tout le monde dit Michael Jordan. En fait, c'est générationnel. C'est difficile de dire.
Moi, mais là, ils sont de la même génération.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que même pendant la même génération, c'est de l'affect, c'est un ressenti, c'est une attitude. Et peut-être qu'il y a des gens qui l'adorent parce que c'est le bad boy, justement. Enfin, tu vois, il y a pas de... On essaie de
réfléchir. Parce qu'il ne rallie pas tous les suffrages. Comme il ne rallie pas tous les suffrages, donc tu as envie, en tout cas personnellement, j'ai envie d'être pour lui. J'ai envie, un peu le défenseur, non pas des causes perdues.
Moi, je suis un peu comme ça aussi, parce
un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, moi, par exemple, tout à l'heure, on va parler du tour. Moi, j'espère que le Danois, il va se refaire la cerise. Ouais. C'est comme ça. Il y a des fois les supporters qui sont, non pas pour le second, mais pour celui que tout le monde cloue un peu au pilori, peut-être à juste titre pour certains. En tout cas, pour moi, concernant
si
Nolet, c'est pas logique.
Et si ça dépendait que des accomplissements, en effet, ce serait statistique et il y aurait
absolument.
Fred le sous-entendait, tu sais, c'est Christian Prudhomme, notre ancien confrère, désormais patron du Tour de France. Il a dit une fois en interview, nos idoles, pour nous, les plus grands, c'est ceux qu'on a admirés à l'enfance ou à l'adolescence. Ouais. C'est ceux qui t'ont marqué dans ta construction et avec l'affect. Donc voilà, moi, mon père, si tu lui demandes le plus grand de tous les temps, il va dire c'est Borg ou McEnroe. Voilà, moi je resterai toujours amoureux de Sampras, exactement, de Pete Sampras, et on peut comprendre que à toutes les
échelles. C'est Agassi.
Mais c'est le style.
Dans le cas d'un Djokovic, là où ça va à l'encontre de. En fait, personne ne lui manque de respect. Ces mecs-là, que tu les aies aimés ou pas aimés, lorsqu'ils arrivent en fin de carrière, il y a toujours une cote de sympathie qui s'ajoute parce que. Il y a la proximité
que tu reconnais leur talent
de leur retraite. Exactement. Ouais. Ils ont fait plier poser le genou à terre à tous les amoureux de tennis. Et quand tu les vois, tu te dis, c'est les dernières années, c'est quand même, tu te rends compte que c'est des champions absolument incroyables. Et tu te rappelles, tu te dis, je l'aimais pas pourtant, au début, c'était pas ma tasse de thé. Mais au bout d'un moment, ça fait consensus. Donc, je suis sûr que cet après-midi, si bat Alcaraz, il y aura une standing ovation et que tout Wimbledon, il y aura pas une seule personne pour le siffler, pour lui manquer de respect, entre guillemets.
Là, justement, sur ce débat, Anthony, nous rejoint dans les grandes gueules du sport à 10h23 en direct. Salut Anthony.
Bonjour François, toute ton équipe, un plaisir de vous retrouver.
Merci. Merci à toi. Alors, sur ce débat, est-ce que les fans manquent de respect à Djokovic?
Je pense qu'on est des bons Français, qu'on n'a jamais aimé les premiers. Et oui, je pense qu'on lui manque un peu de respect. Parce
après, il
n'y
a pas que les Français, puisque ça se passe aussi à Wimbledon, t'as vu.
On n'est pour rien, nous, cette semaine.
Là, c'est pas notre faute, s'il te plaît, en plus.
Et que maintenant qu'il est passé numéro 2, peut-être qu'on lui aimera un petit peu plus et qu'on aimera qu'il retrouve sa place de numéro 1. Et maintenant que c'est sa fin de carrière, on lui doit un minimum de respect pour toute la carrière qu'il a eue. Moi, j'adore les fans de Federer, j'adore les fans de Nadal et j'aime bien qu'on respecte les grands champions, tous les champions.
Après, je ne sais pas si on peut aimer les trois. En même temps, ça c'est.
Alors, non, si c'était le tennis, tu peux aimer les trois.
Je pense que les trois,
ils ont marqué toute une génération.
Demandez à Stephen Brun s'il aime les trois. Je pense qu'il vous répondra rapidement.
Ouais. Anthony, effectivement, donc fan de Djokovic, pour le coup aussi.
Ouais. Parce que c'est pas parce qu'il est pas aimé, c'est parce que s'il a été un grand champion toute sa carrière. Il a été décrié, certes. Il a des pendant ces matchs, il a des fulgurances qui font qu'il peut être détesté, je peux comprendre. Ouais. Mais il est toujours resté dans les règles et il joue avec les règles et il sait jouer avec les règles.
Mmh. Ok, Anthony. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé dans les grandes gueules du sport. Avec et plaisir. Tu reviens quand tu veux. Alors, tu n'as pas vraiment aidé ton équipe puisque toi, tu faisais partie de ceux qui pensaient que les fans de tennis manquaient de respect à Djokovic et la team non qui gagne un petit point. Facile, 32% ouais, bon, bah, pour Simon ouais, et pour Fred. Ouais, 68%
bravo,
vous avez
gagné.
Alors, est-ce que t'es comme tu sais, genre, ils ont gagné un point, même s'ils font 30%, ouais. C'est eux qui ont gagné.
On a réduit l'écart.
Marie,
on a réduit l'écart.
Non, Marie, on a perdu à 75%.
Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, Pascal.
Eric Salio, on va te remercier, Eric. Mais juste avant, bien sûr, cette finale Alcaraz Djokovic, t'as une petite intuition. Peut-être pour cet après-midi.
Aucune. Je vais vous dire un prono un peu banal, 5-7. Allez.
Bah c'est déjà.
Ah ouais.
On aura le cas de
gagner de l'argent. Même si on joue les deux tickets, avec, comme dirait Roland, avec deux tickets 5-7,
ouais, les paris c'est pas tout.
Les deux joueurs qui marquent des points.
Match nul, ça marche pas. Merci beaucoup, Eric.
Salut Eric.
À bientôt et à tout à l'heure, bien sûr, pour cette finale Alcaraz. Djokovic a suivi sur RMC, bien sûr, 15h, heure française. C'est un des événements de l'après-midi sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules du sport reviennent avec la punchline. GG, elle est signée Kevin Mayer, le décathlonien qui s'est blessé au pire moment, puisqu'on est à moins de deux semaines des Jeux Olympiques. Il en a parlé et on l'écoutera. C'est dans un instant.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h30 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport ce matin. Simon Dutin, Pascal Duprat, Marie Martineau, Fred Weiss. Dans un instant, ce sera le zapping des grandes gueules où l'on parlera de la finale de l'Euro. Et oui, c'est ce soir entre l'Espagne et l'Angleterre. Évidemment, on parlera également des droits télé avec des infos à vous donner. Dans une heure, vous le savez, les GG contre-attaquent. Et oui, les GG prennent les commandes de l'émission en vous proposant un débat. Et c'est vous qui décidez. Vous pouvez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. Et le grand gagnant lancera le débat à 11h45. Vos propositions. On va commencer par Fred Weiss qui reste sur une victoire dans les GG contre-attaques. Fred.
Victoire surprenante.
Non, et méritée, néanmoins.
Effectivement, mérité. Non, je suis en train de tomber amoureux du Tour de France parce que c'est un spectacle gratuit, parce que n'importe qui peut se déplacer, encourager les coureurs, être au plus près de la course. Mais j'en ai marre. J'en ai marre de certains spectateurs inconscients sur le Tour de France. Et donc, j'ai envie de dire stop à ces spectateurs complètement fous, complètement débiles. Je suis désolé, j'ai pas d'autres termes, qui font n'importe quoi sur le Tour de France.
Et on a vu quelqu'un jeter des chips, notamment dans la tête.
Alors, il y a tellement de spectateurs de fantastiques qui sont là, qui aiment ça vraiment. Ouais. Enfin, franchement, je trouve ça
scandaleux. Okay, le coup de gueule de Fred Weiss.
Marie Martineau. Je sais que ça existe depuis toujours, quand même.
On va pas faire le débat.
Regarde,
il gagne.
Donc, je dois expliquer mon.
C'est déjà que gagné, c'est pour ça que
Marie, vas-y.
Alors, moi, je voudrais parler du Tour de France, mais de parler des trucs qui nous intéressent, à savoir le sport. Et donc, j'ai remarqué, comme certains, que les trois échappés qui vont au bout cette année pour l'instant, ce sont trois victoires françaises. Oui. Donc, je me disais, est-ce qu'on peut parler d'un tour réussi pour les Français quand on sait qu'au classement général, le premier Français pointe loin.
Ouais.
Voilà, donc j'avais bonne envie de poser la question à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes satisfait pour les Français de ce tour-là et de comment ils se...
Très bien.
Franchement, c'est un très bon débat, Marie. Bon, on l'a déjà fait.
Bien,
très bon
bien,
débat.
Marie.
Vous l'avez déjà fait ?
On l'a déjà fait.
Ah oui, vous l'avez fait quand ? Non, parce que toi, tu viens souvent, t'as pris ta...
Pascal.
Non, mais en fait, à 11h, on va parler de vélo, donc dans la seconde des GG, donc c'est un peu redondant de parler du Tour de France. Moi, j'ai juste envie de parler de football, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc, je voudrais qu'on parle de l'OM, parce que j'ai une info qui m'a interpellé. L'OM s'activerait à un retour d'Alexis Sanchez la saison prochaine.
Ouais.
Pensez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je rêve, parce que Marseille a pris un bon entraîneur, je rêve de voir Marseille accomplir une très bonne saison et concurrencer le PSG.
D'accord.
Voilà, à vous.
Simon.
Alors moi je tiens à dire que ma proposition de contre-attaque a été censurée par la rédaction en chef qui s'est saisie de mon idée visiblement pour en faire un débat plus tard dans l'émission. Donc voilà, ça c'est une première chose. Preuve que mon idée était...
Non mais ça intéresse vraiment tout le monde.
Voilà, du coup je vais parler de l'épreuve justement sous-médiatisée de tir à la carabine. Non, je plaisante. On parlait de tennis tout à l'heure. Ce petit Carlos Alcaraz, c'est dommage qu'Eric soit plus là. Bon, qui... domine désormais un petit peu le tennis mondial. Est-ce que finalement il est si fort que ça? Est-ce que ça vaut Federer, Nadal, Djokovic, ou est-ce que il est si haut parce que derrière il y a une génération, un petit creux de génération.
Voilà. Très bien, merci pour vos débats. Vous allez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Quatre excellents débats, bravo. Vous êtes vraiment dévoué pour l'émission, décarcassé, exactement. Mais tout de suite.
Simon deux fois.
À 13h30.
Ah Simon, oui, bravo Simon.
Il a beaucoup bossé, il a beaucoup bossé. Et d'abord, c'est l'heure de la punchline GG, signé Kevin Mayer aujourd'hui.
RMC, la punchline GG.
Je ne vais pas vous cacher qu'au vu de la gravité de la blessure, ça va être très 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 difficile. J'ai pleuré pendant deux jours, mais depuis, plus rien. Chaque jour, j'emploie chaque minute pour être mieux le lendemain. Je passe ma vie dans un caisson hyperbare et quand j'y suis pas, je suis branché à une machine électrostimulation. Je suis crevé, mais je suis redevenu celui qui adore aller au charbon et qui donne tout pour exaucer son rêve. Et c'est même pas un rêve de gamin parce que j'aurais jamais imaginé avoir les jeux à la maison. Je me sens fort et déterminé à y arriver, en sachant qu'il n'y a pratiquement aucune chance. C'est trop bizarre comme émotion. Tout simplement, j'ai pas le droit de renoncer maintenant. C'est dur, mais je m'accroche.
Kevin Mayer, qui s'est blessé dimanche dernier lors du meeting de Paris, le décathlonien s'est blessé en courant à 110 mètres haies et le double médaillé olympique souffre donc d'une lésion importante au niveau de l'ischio-jambier gauche, selon un communiqué de ses proches. Il s'était déjà qualifié in extremis pour les Jeux Olympiques après une saison perturbée par une blessure à la cuisse. C'est donc évidemment très inquiétant pour lui à 12 jours maintenant des Jeux Olympiques. Est-ce qu'une absence de Kevin Mayer serait une catastrophe pour l'athlétisme français? Oui ou non, Marie Martineau?
Non.
Fred Weiss?
Non, mais...
Non, mais... Pascal Duprat?
Oui.
Simon Dutin?
Non.
Pascal, tu es tout seul à dire seul. Oui.
Ah, je me regarde.
Non, mais Fred,
Fred, il est pas loin d'être avec moi. Moi, je veux dire franchement les choses. Je m'étais imaginé, après ces deux... titre de ces deux médailles d'argent aux deux derniers Jeux Olympiques, je m'étais imaginé le voir être couronné à Paris. Et je pense que vous étiez tous d'accord avec moi.
Kevin Mayer, oui,
s'il est en forme, s'il n'a pas toutes ses blessures, Kevin Mayer, il concurrence tous les on va dire les athlètes de pendant ces Jeux Olympiques. Malheureusement, bon, il n'y a pas pléthore de candidats à des médailles d'or olympiques en athlétisme côté français, même s'ils ont fait un très bon championnat d'Europe à Rome. Oui, c'est une catastrophe que la figure de proue de l'athlétisme soit peut-être absent, parce que aujourd'hui, on en est là, peut-être qu'il ne va pas concourir pour les Jeux Olympiques à Paris. J'espère que son karma, c'est de se rétablir, c'est d'être pendant 10 épreuves incroyables de résilience, et puis qu'il va glaner la médaille d'or. C'est tout le mal que je lui souhaite, et pour cette raison-là, parce que je pressens qu'il va être forfait, eh bien je me dis que c'est une catastrophe pour l'athlétisme, tout simplement. Vous pouvez pas ne pas être d'accord avec moi, c'est à ne rien comprendre.
Je vais prendre le contre-pied de ce que tu dis, Pascal. Peut-être que Kevin Mayer aurait un petit peu été l'arbre qui cache la forêt, aurait un petit peu cristallisé les envies et les récits de la presse concernant l'athlétisme, et peut-être que s'il n'est pas là, justement, ça va forcer un peu tout le monde à se trouver d'autres champions, se raconter d'autres histoires, découvrir d'autres profils au sein de cette équipe de France d'athlétisme qui vont être capables de faire des belles choses.
T'as quand même besoin de ce leader.
Mais t'as besoin de stars, et en fait t'as la Villeni, t'as Mayer, et finalement t'en as aucun des deux.
Oui,
et
aucun des deux.
Et au même titre qu'avec Didier Deschamps, vous vivez dans le passé, les gars. Enfin, c'est fini. Non, hein, la Villeni, ça fait longtemps.
Tu préfères qu'on soit éliminé en demi-finale, ouais, d'accord.
Okay, vivons dans le présent. C'est qui la star de l'athlétisme?
Je pense que la star de cet été dans l'athlétisme, c'est Lazra Klaas ou Sacha Zoya, pardon. Enfin, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont vraiment exploser, nous faire. Comment elle s'appelle-t-elle?
C'est des stars en devenir. C'est pas des figures de pro actuelles.
Excusez-moi.
Marie-José Pérec.
Ah oui, mais justement, excellent exemple, Pascal, parce que à part en 96. Pour Marie-Josée, quel Français aux Jeux Olympiques là sur les 30 40 dernières années, a confirmé, tu sais, est arrivé en favori et a confirmé. Galfione, quand il gagne à Atlanta, personne n'imagine qu'il peut être champion olympique à la perche. C'est le l'ADN de l'athlétisme français, c'est de nous surprendre, c'est de défier les pronostics et c'est de créer des choses. Marie a raison de dire que ça va peut-être laisser de la place à des jeunes talents qui vont se révéler. On a eu des championnats d'Europe prometteurs avec cette moisson, ce bilan record.
J'espère que Kevin Mayer il vous entend tous les deux, non, parce que ça va le motiver. Je te dis encore plus.
Pascal, hein. On n'est pas obligé de se hurler dessus sur tous les sujets. Kevin Mayer, évidemment qu'on aimerait qu'il soit au jeu. Bon, il n'avait pas fait une saison extraordinaire, il s'avançait pas non plus avec quand même beaucoup de garanties de briller.
Deux fois médaille d'argent.
C'est pas une catastrophe pour l'athlétisme français, c'est une catastrophe pour lui.
Oui, évidemment.
Il se met à sa place.
Tu joues sur les mots.
Bah non, c'est une catastrophe pour lui. Mais est-ce qu'on va vibrer? Est-ce qu'on va être derrière les Bleus? Est-ce qu'au moment d'applaudir ou de hurler dans les tribunes ou au micro de RMC, on va se dire c'est quand même moins bien, il est pas là, Mayer.
Avant les championnats d'Europe à Rome, on se posait la question si sans Mayer, ça allait pas être un zéro pointé pour l'athlétisme français.
Justement, on a eu la preuve qu'on pouvait exister.
Non, mais aux championnats d'Europe, là, on parle des Jeux Olympiques. Hein, là.
Mais parce
on va voir. Sans Mayer, comme un meilleur
dans le bas. Qui éclate tous les records en ce moment du 110. Ça vaut pas Kevin Mayer. Moi, je vous comprends pas trop là.
Mais sans mettre.
C'est pas pareil. Tu peux pas comparer. Effectivement, Samba Meyer, déjà, c'est sur 100 mètres, effectivement. Et, mais en plus, elle a moins cette reconnaissance du public. Et je trouve que c'est hyper intéressant.
Mais t'es sérieux, là? T'as le comptable, tu me parles de reconnaissance du public.
Encore une fois, j'y ai depuis le début. Moi, je suis non, je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est pas une catastrophe. Et c'est plus une catastrophe pour lui. Sauf que, effectivement, quand tu t'avances sans tête d'affiche, eh ben, c'est un petit peu moins intéressant, moins. Il y a moins le truc. Alors, je suis d'accord aussi que d'un autre côté, ça va permettre à d'autres de se montrer, de nous mettre en avant et de devenir les stars de demain.
Mais
et
oui, pour l'instant,
ce n'est que des stars en devenir. Et c'est là
ce
que.
Ce ne sont que des stars en devenir. Non, parce que tu me reprends sur le 110 mètres, donc à ce moment-là, Fred, il n'y a pas de souci.
Ok. Donc,
c'est une cata pour le public aussi français.
Gabriel Tual en 800 mètres. Enfin, je veux dire, même moi qui suis quand même vraiment loin d'être très connaisseuse dans l'athlétisme, enfin, il y a des noms qui commencent à sortir, les gars, on arrive en forme. C'est une question de dynamique.
Mais ça n'empêche pas
que les talents vont meilleurs.
Je pense qu'elles vont émerger, on va les vivre avec eux, ils vont naître avec nous pendant ces jeux.
C'est exactement ce qu'on est en train de dire, mais c'est pour ça que je suis à peu près d'accord avec toi. C'est une catastrophe pour lui, d'avoir quelqu'un qui a cette aura médiatique qui ne peut pas y participer, mais effectivement, il y a d'autres qui vont pouvoir s'intéresser à ça, se mettre en avant grâce à ça, et je suis d'accord, c'est pour ça que je suis partagé un petit peu entre les deux, parce que
quand il va y avoir le décathlon, si Kevin Mayer n'est pas présent, les supporters français, ils vont être moins attentifs. Vous pouvez me dire ce que vous voulez.
Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez.
Donc, c'est une catastrophe pour l'athlétisme français que son chef de file ne soit pas présent, tout simplement. Et ça n'aurait pas, comment dire, occulté l'émergence de nouveaux talent, bien au contraire, d'avoir le chef de file avec eux.
Vous savez qu'on va compter les médailles, évidemment, des Français, et notamment dans l'athlétisme. Et avec Kevin Mayer en forme, encore une fois, c'était pas une médaille assurée, mais t'avais la chance d'avoir au moins une médaille. Mais
justement, imagine que tu fais chou blanc au jeu, à part Kevin Mayer qui monte sur le
podium. Au moins, on aura parlé de l'athlétisme français.
Lorsque tu fais le bilan de l'athlétisme français après les jeux, tu dis on s'est raté, c'est une cata. Regardez, Mayer, c'est quasiment, tu le dis, normal qu'il fasse une médaille. Bon, et pour le reste, on n'a rien vu. Donc, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, le bilan de l'athlétisme français, il sera fait.
Le mec lambda, la personne lambda qui regarde les
Le recordman du monde du décathlon qui risque d'être forfait aux Jeux Olympiques en France, c'est pas une cata. Le recordman du monde du décathlon qui est français aux Jeux Olympiques en France, il n'est pas présent, ou peut-être qu'il ne sera pas présent parce que forfait à cause de blessure. Vous considérez que c'est pas une cata? D'accord.
C'est vrai que c'est terrible pour lui. C'est vrai aussi que si tu observes ses performances et son état de forme depuis quelques mois voire années, il n'y a rien de très très surprenant, Pascal. Et lui-même le sait. Enfin, je veux dire, Kevin est
surprise.
Tout recordman du monde qu'il soit. C'est
Bon. Mais quand tu le vois accomplir les minima à Rome, oui, sur la pointe des pieds, tranquille, mimille, tu te dis, mais il lui reste encore 2 mois pour se préparer. Mmh. Ça sent bon, cette histoire. Non. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est une catastrophe qu'il soit pas là. Pardon. Voilà. Vous pouvez m'attacher, vous pouvez me taper, vous pouvez me flageller. Vous m'empêcherez pas de penser
dans le mot catastrophe. Il y a quand même une idée de ça arrive d'un seul coup, ça vous tombe dessus et tout. Et voilà, je pense que l'athlétisme français, et Dieu merci, heureusement, n'est pas juste.
Mais finalement, quand t'es savoyard pour rien. Quand t'es une blessure, c'est quand même soudain, Marie. On est d'accord.
On va suivre, évidemment, l'évolution.
C'est quand même soudain, du coup.
Un dernier mot, Simon.
Oui, tranquille, mimille, donc. On aura notre.
Non, mais je l'ai senti, mais serein, tranquille, il gérait son truc, il fallait qu'il fasse les minima. Donc j'espérais qu'il était débarrassé de ses blessures.
On va suivre ça, évidemment, de très près sur RMC, sur rmcsport.fr aussi, les infos autour de Kevin Mayer. Et ça serait, et là on est tous d'accord, génial qu'il puisse participer aux Jeux Olympiques. Voilà.
On lui souhaite de tout cœur.
Évidemment. Oui. RMC, je vous le rappelle, radio officielle des Jeux Olympiques, avec une matinale olympique tous les jours, toute la journée aussi, toutes les épreuves en direct de 9h à 1h du matin, en direct du Club France, et puis des radios digitales pour ne rien rater, notamment des performances des Français en athlétisme, par exemple, et de Kevin Mayer, s'il est là, bien sûr.
12 jours
avant les Jeux Olympiques sur RMC.
Restez avec nous sur RMC, on vient tout de suite pour le zapping, évidemment, des GG. On va parler notamment de la finale de l'Euro. C'est ce soir, 21h, Espagne-Angleterre. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Les grandes gueules du sport en grande forme en ce 14 juillet. Il est 10h47 en direct sur RMC. Marie Martineau, Simon Dutin, Fred Weiss et Pascal Duprat. À 11h, les GG vont passer la seconde. Elles vont suivre la roue des coureurs du Tour de France au lendemain de la grosse étape de montagne que l'on a vécue ensemble. Tadej Pogacar vainqueur. Et ce qu'il a assommé le Tour de France. On en parle dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, à 7h06, c'est l'heure de zapper.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs infos à vous donner, si ça vous intéresse, vous pouvez commenter. Sinon, vous passez votre tour. On va commencer par la finale de l'Euro ce soir à 21h, qui oppose l'Espagne à l'Angleterre. On s'en fout pas, Marie Martineau.
Je m'en fous.
Fred Weiss.
Bah non, du coup.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Au commentaire ce soir sur RMC, ce sera Jeannot Rességuier qui est avec nous déjà ce matin. Salut Jeannot.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Ouais, évidemment qu'ils ne s'en foutent pas, Jeannot Rességuier, de cette finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Bah, par rapport à leur parcours d'ailleurs respectif, on a l'impression que l'Espagne semble partir avec une petite longueur d'avance face aux Anglais, Jeannot.
Bah, dans un euro fermé et très tactique, pas de surprise pour cette finale avec deux favoris annoncés depuis le début du tournoi, mais qui ont connu deux parcours différents. Une Espagne séduisante, ambitieuse, qui a dominé tous ses matchs, 6 victoires au total, face à une Angleterre plus laborieuse, parfois inquiétante, mais qui a su être renversante grâce au coaching judicieux de Gareth Southgate. Souvent critiqué d'ailleurs pour ses choix sur ce tournoi, il a su regagner la confiance des supporters après la finale perdue à Wembley, souvenez-vous, en 2021, et une élimination en quart de finale au Qatar de la Coupe du monde par la France. D'ailleurs, l'Angleterre va jouer sa première finale loin de ses terres après 66 et 2021 face à l'Espagne qui a ouvert un nouveau cycle avec Luis de la Fuente qui a déjà œuvré chez les jeunes avec succès. Champion d'Europe U19 en 2015, champion d'Europe Espoir en 2019. Ajouté à cela une médaille d'argent au JO 2021 et la victoire de la Ligue des Nations en 2023 avec à chaque fois des joueurs que l'on retrouve aujourd'hui dans le groupe qui va disputer cette finale. Ce qui m'amène à vous dire en conclusion que ce 14 juillet pourrait être ou pourrait devenir, pourquoi pas, fête nationale de l'autre côté des Pyrénées.
Et on va vivre ça avec toi, bien sûr, sur RMC à 21h et également sur l'appli RMC 100% Euro. Enfin, voilà, sur l'appli RMC, vous retrouvez cette radio digitale pour l'Euro. Pourquoi ? Ben, vous vous en foutez pas, je le comprends, évidemment, Pascal. Tu la vois comment cette finale ?
Ben, en fait, je vais regarder ceci comme un amateur de football, même si j'espère la victoire des Anglais. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est mon côté un peu contrarié, peut-être contrarié. Donc, l'Espagne, parce qu'il y a deux défenseurs centraux qui sont français, à savoir Laporte et Lenormand.
Oui.
Ok. Donc, c'est pas Gérard, hein, Lenormand, c'est bien.
Oui, c'est Robin.
Mais c'est pas Bernard Laporte.
Voilà, Robin. Voilà. Et aussi, je souhaite la victoire des Anglais, tout simplement, parce que Southgate, il se fait matraquer par les tabloïds et par la presse anglaise. Et le voudrais voir triompher. Et puis, lui, prendre sa casquette et dire au revoir à tous et à très bientôt. Voilà.
Tu lis souvent les tabloïds.
Les tabloïds.
Non, mais je m'intéresse. Comme je travaille pas, donc je parcours la presse. J'essaye de m'enrichir un tant soit peu. Intellectuellement, tu vois, je comble des déficits. C'est comme ça, la vie.
Un mot à dire sur cette finale, Fred?
Oui, moi, j'espère exactement le contraire.
Que l'Espagne, la victoire de l'Espagne, d'accord.
Mais et pourquoi? Parce que justement, ça mettra en perspective la défaite de la France en demi-finale. Ça permettra de dire que les chances n'étaient pas si mal que ça.
Je croyais que t'étais pour le beau jeu, j'ai eu peur.
Et pour le beau jeu, et parce qu'il y a
encore plus supporter de Didier que moi.
Et parce qu'il y a mal. Et franchement, c'est très impressionnant ce qu'il nous propose, ce petit-là.
C'est la seule sélection qui a proposé quelque chose qui ressemble un petit peu à du football. Et tu vas voir que, à tous les coups, c'est la pire équipe d'Angleterre de ces 30 dernières années qui risque de l'emporter. Parce que c'est des survivants, les Anglais.
C'est un excessif, mais grave.
Non, mais encore une fois, moi j'ai toujours été amoureux des Anglais depuis 1990, la Coupe du Monde en
T'as pas aimé la demi-finale Hollande, Pays-Bas, Angleterre?
C'est leur moins mauvaise rencontre. Si, c'était pas mal. Je te rejoins, mais ils doivent sortir contre les Slovaques. Et puis l'Espagne, c'est quand même c'est loin, même si ça a été un peu séduisant. C'est loin de ce qui a fait leur légende. Attention, en revanche, le Normand qui joue face aux Anglais, on peut avoir ça peut nous faire reprendre la guerre de 100 ans.
On va voir ça, bien sûr, ce soir avec Jeannot et Séguier. Vous l'avez compris au commentaire. Merci beaucoup, Jeannot.
Avec plaisir, bonne journée.
Dès 20h, bien sûr, Intégral Euro avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit et donc la radio digitale également. Disponible pour vous, tous les fans de foot. La France qui s'incline face à l'Argentine lors du dernier test match de la tournée sud-américaine. C'est du rugby, évidemment. On s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout.
Simon Dutin.
Je m'en fous.
Pascal Duprat.
Ah, je m'en fous pas.
Marie Martineau.
Non, je m'en fous pas.
Le 15 de France qui a perdu 33-25 pour le dernier test match face à l'Argentine, c'était hier à Buenos Aires. Effectivement, quelle valeur donner à cette défaite dans un contexte plombé par les affaires extrasportives. Marie.
Match nul, réalisation nulle, résultat nul, équipe de France nulle. Je m'interroge vraiment sur la descente aux enfers de cette équipe de France.
Pascal.
Et supporters argentins, super. Parce qu'ils ont encouragé leur équipe et ils n'ont pas blâmé l'équipe de France. Bravo.
Ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu, dans le contexte actuel, être un peu plus mouvementés.
Bravo.
On va parler d'une autre info alors à 10h52, la journée décisive aujourd'hui pour l'attribution du diffuseur de la Ligue 1. On s'en fout, on s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Marie Martineau.
Pardon, quelle était la croix télé? Ah non, allez, zappe-moi ça.
Ok, bon, on va quand même en parler parce que ça intéresse Fred et Simon. Hier soir, beIN Sport a démenti à RMC Sport avoir formulé une offre de 100 millions d'euros pour la meilleure affiche en complément de l'offre d'Azone, qui, je vous le rappelle, est pour l'instant de 375 millions pour 8 rencontres sur 9 le week-end. Les clubs de Ligue 1 qui doivent choisir aujourd'hui entre cette offre d'Azone ou alors la création d'une chaîne 100% Ligue 1 diffusée via Max, une plateforme du groupe Warner Bros. DAZN qui imagine d'ailleurs un montant entre 30 et 35 euros d'après nos informations par mois pour la Ligue 1 et pour évidemment tout le catalogue sportif de DAZN. Fred,
c'est très inquiétant. Enfin, on arrive au bout du bout parce qu'à chaque fois on dit oui, on va trouver une solution, il va y avoir quelqu'un qui va arriver, etc. Honnêtement, quand j'ai lu que beIN s'est aussi intéressé, moi j'étais ravi forcément. Et là, on se dit finalement que c'est plus le cas. On sait pas, on comprend rien. C'est nébuleuse. Les clubs doivent serrer les fesses vraiment de façon très impressionnante parce qu'ils doivent être très inquiets. Les amateurs de foot aussi. Voilà, c'est très inquiétant pour le foot là.
C'est bon.
Oui, c'est inquiétant. Il faut trouver une solution. On a l'impression de répéter les mêmes choses.
Normalement, c'est pour aujourd'hui la solution. Après, quand je vous cite un chiffre, 30 et 35 euros par mois pour l'abonnement d'Azone, avec l'offre d'Azone, qui a aussi, je crois, le championnat belge, il y a de la boxe sur d'Azone, enfin, il y a d'autres sports.
Oui, sauf que ceux qui vont s'intéresser à la Ligue 1, c'est pour la Ligue 1.
Ça paraît possible, ça.
Ce qui paraît ahurissant, c'est les montants envisagés d'abonnement mensuel. Qui va payer 30 ou 35 euros par mois pour s'abonner à la
Ligue 1? En même temps, c'est le débat qu'on avait pour la chaîne de la Ligue. Pareil, on disait que c'était beaucoup trop, et d'un seul coup, c'est plus. Alors qu'effectivement, les passionnés de foot sont rarement passionnés d'autres sports. Donc, concrètement, ça me paraît
énorme. Ça paraît surréaliste, et on se demande comment les présidents de
clubs calculent, vu qu'on dépense ça, il faut qu'on mette ça dans les
mais à quel moment tu penses que ça va marcher?
Mais Marie Martineau, elle devient folle avec ça, hein, parce qu'il y a des problèmes de mathématiques dans ça, et elle peut pas parler, donc ça doit vraiment l'ennuyer.
Ah oui, là, je la vois, là, elle trépigne, elle a envie de parler.
Alors, heureusement, il y a un petit bouton qui s'appelle langue noire, et donc je peux parler avec la régie, donc je dis tout ce que j'ai envie, mais à la régie.
Ça restera dans la régie.
Voilà, inside.
Bon, on reviendra évidemment avec d'autres zappings la semaine prochaine et on suit évidemment cette affaire de très près sur RMC. On l'a dit, peut-être la fumée blanche aujourd'hui, peut-être un diffuseur pour la Ligue 1. Donc restez connectés sur RMC, on aura l'occasion d'en reparler. On va revenir tout de suite dans les grandes gueules du sport avec le Tour de France, bien sûr au programme. Il y a eu hier, vous l'avez vécu, un coup de force de Tadej Pogacar. Alors hier, on se posait la question, est-ce que Vingegaard avait pas repris le dessus? Ben, on va changer notre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Tadej Pogacar qui a assommé le Tour de France? Oui, on est comme ça dans les grandes gueules du sport. On change de débat, mais parce que les acteurs du Tour nous forcent à changer de débat. On en parle dans un instant avec toute l'équipe. Vous restez avec nous, bien sûr, sur RMC, les 10h56. On revient dans deux minutes. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.